Devant moi, j'ai le professeur associé au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke, Normand T. O'Neill. Bon matin, monsieur O'Neill.
Bonjour.
Alors, monsieur O'Neill, aujourd'hui, on vous parle parce que on voulait en savoir plus sur la participation de l'Université de Sherbrooke au projet AOS de la NASA. Alors, monsieur O'Neill, à la mi-octobre 2022, la NASA a annoncé un partenariat avec plusieurs acteurs canadiens et internationaux, dont l'Université de Sherbrooke. Vous avez été sélectionné pour être le professeur représentant de l'Université de Sherbrooke dans ce projet. La mission AOS prévoit deux lancements. Un en 2028 et un en 2031. Quelles sont les étapes que vous devez mettre en place avant ces deux lancements et quel est le projet, en fait, AOS, si on peut commencer par ça, pour la NASA?
L'AOS, c'est un projet générationnel qui va lancer une quinzaine de capteurs qui mesurent les propriétés de l'atmosphère, les aérosols, les nuages et la précipitation et la vapeur d'eau. Le projet de AOS, Atmospheric Observing System, c'est un projet de grande vigueur avec un prix de quelque chose comme 1,5 milliard de dollars US. Mm-hmm. Les Canadiens ont pris l'étape, la stratégie intelligente de complémenter cette grande mission-là. Donc, les Canadiens vont aussi mesurer la propriété des aérosols, les nuages et la vapeur d'eau, mais dans le plus haut que 5 km, puis avec une précision plus intéressante au niveau de le type d'information qu'on peut sortir. Okay. Donc, c'est. Puis l'annonce canadienne a été faite par l'Agence spatiale canadienne. L'argent canadien provient de l'Agence spatiale canadienne, un 200 millions de dollars canadiens qui serait, comme je dis, bien complémentaire à la mission de NASA.
Et qu'est-ce que ça fait de participer à une mission de la NASA? Est-ce que c'était. Est-ce que vous aviez prévu ça dans votre vie un jour? Je vais participer à une mission de la NASA ou.
Oh, j'ai une longue histoire avec la NASA. Okay. J'ai participé avec des équipes qui me font des mesures au sol. Une équipe qui s'appelle Aeronet. Ça fait une vingtaine d'années que je participe avec eux. Donc, je suis à l'aise avec ces gars-là.
Oui, c'est ça. Le standing de la NASA vous fait un peu moins peur, là, justement. Vous connaissez la business. Et justement, quelles sont les étapes que vous devez mettre en place avant les deux lancements qu'on prévoit en 2028 et en 2031? Qu'est-ce que vous avez à faire pour ces lancements-là?
Il faut planifier la stratégie technique, la stratégie scientifique et la stratégie d'acquérir des étudiants puis des nouveaux professeurs. On a 10 ans pour faire ça, puis ça va aller très vite. Puis il y a beaucoup de préparation à faire, puis on est bien placé, mais il faut pas retarder.
Et justement, la mission AOS implique également des acteurs internationaux tels que la JAXA du Japon, le CNES de la France et la DLR en Allemagne. J'imagine que c'est pas votre première implication avec des gens de partout dans le monde. Vous avez déjà travaillé avec des gens, comme vous avez dit un peu auparavant, que la NASA. Là.
Oui, mais beaucoup mieux que les gens de NASA. Mais les Français, ça fait longtemps que notre département travaille avec les équipes de Français là, sur la détection de la surface plutôt que l'atmosphère. Là, mais oui, je suis. On fait une communauté internationale assez près. En gros.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez besoin d'étudiants, vous avez besoin de professeurs. Étant un spécialiste dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des types de profils d'étudiants que vous êtes à la recherche justement pour complémenter votre équipe pour ces projets-là?
Ouais. Des étudiants assez multidisciplinaires qui sont à l'aise avec la physique de la télédétection, avec la mesure des propriétés de surface. Avec une connaissance de les implications de changement climatique, les aérosols, les nuages, puis la précipitation, comme vous pouvez imaginer, ils ont un impact très important au niveau du changement climatique. Les aérosols jouent le rôle des noyaux de condensation, cristallisation. Ils ont un impact très important sur les nuages, qui, eux, sont l'élément de forçage radiatif le moins bien connu dans les modèles de climat. Donc, il faut beaucoup mieux comprendre le comportement des aérosols, les centres noyaux, le noyau de condensation et les nuages, et l'impact de ça, l'impact de forçage radiatif sur les modèles climatiques. Puis là, les modèles climatiques, on peut mieux prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les 20, 30, 40 années qui viennent.
Alors, on parle de la NASA, on parle d'espace, mais j'imagine que justement, pour faire la vérification de ces aérosols, de ces nuages-là, ça ne se passe pas dans l'espace, ça se passe à, comment dire, pré-atmosphère ou avant la fin de l'atmosphère. Comment ça fonctionne, le calcul de ces aérosols-là, d'une façon bien simple,
oui,
évidemment?
Il faut voir des profils verticaux. Les nuages se trouvent de près du sol jusqu'à la mi-stratosphère.
Okay.
On a des capteurs sur le ROS, des leaders de pulsation qui nous donnent un profil vertical. On peut voir les aérosols, on peut voir les nuages, on peut voir l'interaction entre les deux. Les capteurs canadiens, eux, ils vont faire des profils pas aussi précis que les leaders, mais avec plus d'informations sur le type d'aérosol, le type de nuage. Donc, tous ces capteurs-là mis ensemble, ça va être très excitant.
Ben oui, justement, la demande, en terminant, la demande de données satellitaires de l'observation de la Terre est un domaine de plus en plus lucratif. Il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent justement là-dedans au Canada, à travers le monde. D'ici 10 ans, les revenus mondiaux dans ce domaine vont passer de 3 milliards de dollars à plus de 7 milliards de dollars. Tout d'abord, est-ce que c'est un domaine que vous trouvez que la population en général en connaît assez? Je parle avec des gens du département de géomatique depuis le début de mon émission, depuis presque 2 ans maintenant. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez arrivé dans mon studio, c'est tout le temps une nouvelle découverte que vous nous emmenez.
Okay.
Et j'ai l'impression qu'on n'en connaît pas assez, nous, les citoyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez également comme constat?
Oui, je pense qu'on a un mandat de bien vulgariser qu'est-ce qu'on fait, puis on n'a pas bien fait ça encore.
Vous le faites bien, en tout cas ici.
Mais sur le plan du business, les gens de département sont très bien vulgarisés. Il y a beaucoup plus d'argent qui va dans la détection de la surface. On connaît beaucoup moins l'aspect commercial de l'atmosphère, mais comme vous savez, l'atmosphère, c'est clé à comprendre les changements climatiques. Donc, c'est moins business, mais plus science.
Ouais, plus science, effectivement. Monsieur Normanté O'Neill, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu en studio aujourd'hui. Félicitations pour ce grand projet-là. Je suis sûr que vous allez faire rayonner l'université partout dans le monde, littéralement. Monsieur O'Neill, vous êtes professeur associé au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke et vous serez également le professeur représentant l'Université de Sherbrooke au projet AOS de la NASA. Un grand merci pour votre temps ce matin.
OK, merci. Au revoir.